Radio Foot International, le Café des Sports,
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot qui ouvre ses portes comme chaque vendredi, un Café des Sports serré, ristretto même, et pour cause, pour la bonne cause, les Jeux Paralympiques de Paris, qu'on suit sur RFI. En attendant, au menu du café, de vieilles recettes, mais qui sont parfois les meilleures. Messi et Ronaldo, voilà qui fera plaisir à Rémy Ngono. Les deux géants ne jouent plus en Europe, ne sont même pas dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or. C'est une première depuis très longtemps. Mais, il continue à briller. La preuve, Ronaldo a inscrit un 900e but en carrière hier. Un autre grand absent de la course au Ballon d'Or se distingue. Fort avec les pieds, fort en gueule, surtout Kevin De Bruyne, il attaque une nouvelle fois les instances, le Belge. Trop de matchs, tout ça pour l'argent. Il est en colère, le joueur de Manchester City. Est-ce que vous partagez son opinion? On posera la question à nos consultants tout à l'heure. Et puis le Cameroun attaque les éliminatoires de la CAN, demain la CAN 2025. Après une nouvelle semaine agitée en coulisses, le bazar consécutif à la nomination de Marc Brice au poste de sélectionneur. Dans ce contexte, les Lions indomptables vont-ils quand même faire bonne figure face à la Namibie et face au Zimbabwe? On en parle tout à l'heure. Les habitués du Café des Sports sont en place. Bon, j'ai un peu éventé le suspense. Il est bien là, vous l'attendiez tous. Rémy Ngono, bonjour Rémy.
Présent. Et salut à tout le monde.
À tout le monde, voilà. À ceux qui nous écoutent à la radio, à ceux qui nous regardent sur France 24, également sur le Facebook Live de Radio Foot. Bonjour Xavier Barré.
Salut Hugo, bonjour à tous. J'allais pas laisser Rémy tout seul alors qu'il y a la liste du Ballon d'Or au programme.
Et qu'on parle de Messi et Ronaldo.
Et bien sûr.
Ce serait trop déséquilibré. Il ne veut parler que de Ronaldo. Et quand il parle de Ronaldo, il ne parle que de Messi. On connaît la recette de Rémy Ngono. Le réfé Suto. Bonjour Fred Suto.
Bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Welcome back.
Oui, bah on était un peu occupé cet été. Hein. Il s'est passé.
Il paraît qu'il y a eu deux, trois événements, oui, effectivement.
Les auditeurs sont là, en tout cas, ils nous attendaient. Abdourahmane Sow, bonsoir. Amara Diomandé également. Ça parle de matchs en Afrique également. Il y a des éliminatoires.
C'est parti. Donc, Cameroun, dont on parle tout de suite. Radio Foot, le Café des Sports, c'est parti.
Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
Le gagnant est Cristiano Ronaldo.
Ballon d'Or France Football 2023 est Lionel Messi.
Pour la première fois depuis 2003, vous imaginez? On est passé des choses depuis 2003. On avait quel âge en 2003? Rémy Ngono était-il déjà Rémy Ngono en 2003? Eh bien, pour la première fois depuis 2003, pas de Messi ni de Ronaldo dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. La liste qui a été dévoilée en milieu de semaine. Et pourtant, les deux géants qui comptabilisent 13 Ballons d'Or à eux deux. Tous les Ballons d'Or, c'est bien simple, hein, de 2008 à 2017. Hein, ça vous dit l'étendue de leur domination. Eh bien, ni Messi ni Ronaldo ne pourra remporter le trophée cette année. Pourtant, ils ont encore du talent à revendre, nos deux extraterrestres. À 39 ans, Ronaldo a marqué pour le Portugal hier, succès 2-1 face à la Croatie en Ligue des Nations. 900e but en carrière pour le capitaine portugais, l'ancien du Real. Quant à Messi, on le rappelle, il a de nouveau remporté la Copa América, la deuxième de rang, l'été dernier. Alors certes, il ne joue plus en Europe, ces deux joueurs, mais la Coupe du Monde 2026, c'est pas si loin. C'est dans 2 ans. Est-ce qu'ils sont vraiment finis? Est-ce qu'ils sont vraiment hors-jeu? Nos deux amis Xavier Barré. On va commencer par le calme, la tempête.
Ils pourront revenir dans la liste, parce que ce n'est pas la première fois que Messi n'y est pas. Je crois que c'est il y a 2 ans, il n'avait pas été.
Mais il est Ballon d'Or en titre, on le rappelle.
Oui, il est Ballon d'Or en titre. Après, c'est le juré de France Football qui décide de l'établissement de cette liste. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui ai eu cette idée. Il y a,
vous êtes 30
ans, il y a 30 ans maintenant, voilà, il y a 30 ans, parce qu'à l'époque, il y avait des jurés qui, parfois, pour faire plaisir à leurs voisins, rajoutaient un nom un peu fantaisiste dans la liste. Il n'y avait pas de liste sur laquelle il fallait sélectionner. Et donc, on a décidé, on en avait parlé aussi avec El Refe, Alexandre Valente d'ailleurs, et on était allé suggérer ça à notre directeur de la rédaction, lui disant peut-être ce serait bien de faire une liste sur laquelle, justement, les différents jurés, à l'époque, il n'y en avait qu'une cinquantaine, puisqu'il n'y avait que les journalistes européens qui votaient, peuvent piocher les noms qui leur conviennent. Et puis, ça permettra de cadrer un peu le vote. Et la liste, à l'origine, c'était 50 joueurs. Maintenant, elle est plus que de 30. Entre-temps, même quand la FIFA avait co-organisé le Ballon d'Or, il l'avait descendu à 23, ce qui avait créé beaucoup de polémiques parce que du coup, il y avait certains joueurs qui pouvaient prétendre à y être qui n'y étaient pas. Mmh. Aujourd'hui, avec 30, je pense qu'on est dans un bon équilibre parce que quand on avait la liste des 50, il y avait rarement plus de 30 joueurs qui avaient des points.
C'était oui, parce même que certains terminent
avec zéro point. Donc voilà, 30 c'est bien, ça prête toujours à polémique parce qu'on se dit tiens pourquoi lui pas lui, mais bon ça c'est un peu le jeu, mais voilà on peut cadrer. Et je pense que dans son rôle justement de guider le jury, la rédaction de France Football a été très bien inspirée cette fois-ci d'écarter les deux. Cristiano Ronaldo et Messi. Elle est dans la philosophie des créateurs du Ballon d'Or qui, en 1958, avait carrément enlevé Di Stefano de la liste en disant « c'est bon, il l'a eu, on le remet pas ». Donc c'est déjà arrivé par le passé, c'est dans l'histoire du Ballon d'Or et je pense qu'ils ont raison d'aider tous les jurés, et il y en a 100 maintenant qui votent, dans tous les pays, dans tous les continents, à choisir de nouveaux élus, de nouveaux lauréats. Il y a plein de joueurs de talent, il faut savoir tourner la page. Cristiano Ronaldo en a eu 5, Messi en a eu 8, même à la fin.
L'un est en Arabie Saoudite, l'autre est aux États-Unis. Voilà, il
se demandait d'ailleurs parfois, Messi se demandait à la fin qu'est-ce qu'il allait dire parce que ça l'intéressait même plus. Donc voilà, on tourne la page et on ouvre une nouvelle ère. Moi je trouve ça très bien. Si par hasard ils redeviennent meilleurs joueurs d'une Coupe du Monde en 2026, la rédaction de France Football pourra toujours les réintégrer dans la liste.
Alors la question c'est moins de faire le procès de la liste de France Football que de dire est-ce que ça signifie qu'ils sont hors-jeu pour le plus haut niveau. Hier, un 900e but en carrière pour Ronaldo, on a tendance à penser que il faut encore peut-être compter un petit peu sur eux pour le futur proche, Rémi Ngono.
Après 6 minutes de long tunnel de Xavier Barré, nous avons donc eu juste une confirmation, c'est que c'est lui qui a donné l'idée, lui catalan, qu'on doit souvent sélectionner des joueurs, donc du coup, vous savez, si je suis dans un jury, mon enfant sera toujours le premier. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que Messi a souvent eu des ballons d'or étant couché chez lui. Maintenant, on revient donc.
On parle de la liste, là, on ne parle pas du choix final.
Est-ce qu'il mérite d'être écarté? Vous avez vu hier, Messi n'était même pas sur la feuille de match.
Oui, l'Argentine a également joué en éliminatoire.
Il ne joue plus.
Il est blessé.
Il est toujours blessé.
Non, il n'est pas toujours blessé.
Il était à la Copa América.
Il l'a même gagné.
Mais si vous dites qu'il a même gagné, tous les joueurs du Real ont gagné la Ligue des Champions. Il y a un ballon d'or.
Non, mais la question n'est pas de savoir s'ils doivent remporter le ballon d'or. C'est de savoir si ces joueurs sont hors-jeu pour le plus haut niveau.
On regarde les statistiques et les prestations individuelles et non collectives d'abord. C'est ça. Donc, le ballon d'or récompense quelqu'un et non une équipe. Et ce ballon d'or, lorsqu'on essaie de regarder, Messi a été, bien évidemment, au niveau de là, vous savez, dans le désert, et il s'est blessé. Bon, le talent, il n'a pas pu l'exprimer.
Mais Cristiano Ronaldo, il a gagné la Copa América.
Mais je vous avais fait 7 minutes de tunnel.
Oui, mais moi j'avais des choses à raconter.
Allez, concluez.
Vous ne pouvez pas me donner une minute et parler.
Voilà.
Donc, j'ai dit ceci que lorsque vous regardez donc Cristiano Ronaldo pour cette saison, c'est quelqu'un qui livre 45 matchs pour 44 buts et 13 passes décisives. Comment est-ce qu'il peut ne pas figurer là-bas lorsqu'on sait par exemple que l'autre ballon d'or, Benzema, est dans ce championnat-là et qu'il ne parvient pas, c'est un championnat difficile, lorsqu'on sait par exemple que le meilleur joueur du milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, il évolue là-bas. Donc c'est la première des choses.
Deuxième des choses,
ce qu'on regarde aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, plus il vieillit, plus il devient fort. Parce qu'il faut... Je peux te le dire.
Le dernier Euro a été extraordinaire.
On voit quand même un certain déclin.
Mais ne vous basez pas.
Ne vous basez pas sur ce qu'on appelle uniquement une équipe et regardez surtout ce qu'on appelle des prestations d'individus. Parce que je vous dis que
c'est le contraire
lorsque
du football.
Vous regardez que Cristiano
le football,
Ronaldo,
c'est le contraire.
Quand je parle de l'âge,
c'est un sport collectif.
Après 30 ans, Cristiano Ronaldo a marqué 437 buts. Alors, monsieur, vous constatez donc que ce monsieur marque et continue à marquer. Et vous avez pu admirer, j'ai vu d'ailleurs, Xavier Barré n'a pas
2023, 2024.
Toute la journée,
allez,
toute la soirée.
On abrège parce qu'il faut qu'on puisse développer, continuer, poursuivre l'émission.
Hein,
ah bah j'imagine Frédéric Sutton.
Bon alors il y a
serré le café des sports aujourd'hui, je vous rappelle.
De Rémy Ngonou, Alioune Seck, Ronaldo est incontournable, meilleur que nombre de nominés. Mais on en a beaucoup qui s'étonnent, Robson D'Souza par exemple, dans cette liste des 30, de ne pas voir Serrou, Guirassy.
Hein, lui-même s'est étonné de ne pas être dans la liste, le Guinéen.
Le Guinéen, Stuttgart, 30 buts Dortmund avec Stuttgart, deuxième buteur européen. Scandale Rodrigo aussi, nous dit Adama Konaté. Comment expliquer que le Madrilène ne soit pas dans cette liste? Ouais, pas mal de réactions, mais surtout pour Guirassy. Hein, c'est vrai que là, c'est quand même
le Guinéen qui aurait pu y figurer. Bon, on va parler quand même de ceux qui y sont un tout petit peu. Votre favori, Xavier Barré?
À moi, comme l'année dernière, Rodri,
l'Espagnol, champion d'Europe avec l'Aurora et puis évidemment taulier de Manchester City.
Oui, parce qu'on le voit, c'est le joueur décisif par excellence. Quand il n'est pas là, Manchester City perd. Quatre fois ils ont perdu cette saison, trois fois il était absent. Enfin, la saison est écoulée. Et puis avec l'Aurora, encore un rôle décisif.
Alors, je vous rappelle quand même qu'il avait quand même offert la Ligue des Champions à Manchester City en 2023 pour ne pas remporter le Ballon d'Or.
Oui, donc c'est pour ça, pourquoi pas une séquence de rattrapage aussi pour lui à ce niveau-là.
Votre favori
Rémy Ngonou. Puisque lui, il veut les séances de rattrapage, moi je suis dans les séances de ceux qui ont gagné. On ne peut pas aller au rattrapage alors que ceux qui sont là, sont là.
Donc un numéro Vinicius, 7 du Real Madrid.
Vinicius, après Vinicius, c'est bien évidemment Bellingham. Rodri, il peut venir en troisième position, mais avant cela, je mettrais Carvajal. Mais quand même pour essayer de diversifier, parce que quand même le Real Madrid a 7 nominés dans cette histoire-là, on va mettre Rodri pour qu'il les accompagne quand même. Moi, c'est donc Vinicius, et puis Bellingham, et enfin Rodri.
Frédéric Souto, il y a des favoris, il y a un palmarès, un podium qui se dessine chez nos auditeurs.
Ah, chez nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Non,
bah
si non, vous ne l'avez pas,
ouais,
on
Rodri
enchaîne.
Rodri Ballon d'Or, Aboutal, là, qui vient d'envoyer son message sur le Facebook Live.
Lille là, partout, là, c'est Vinicius.
Non, Vinicius, on ne le voit pas.
Mais comment tu cherches pas, vraiment après, une phrase?
Après, allez, c'est pour vous faire plaisir. Vini Junior, ballon d'or, voilà. Ça c'est Abraham Fofana.
Non, mais
Vinicius
intéressant,
Vinicius Junior qui a marqué en finale de la Ligue des Champions.
Ce qui est intéressant cette saison, c'est qu'effectivement, on a trois compétitions majeures. On peut même rajouter la CAN, mais il n'y a pas de champion d'Afrique nominé. Mais on a la Ligue des Champions, effectivement, avec des joueurs du Real Madrid, donc Vinicius, Bellingham, Toni Kroos, même s'il a pris sa retraite, qui est aussi nominé. Et moi, je ne trouve pas ça scandaleux, parce qu'il a fait effectivement une très belle saison. Et puis, il y a l'Espagne, qui a gagné l'Euro, qui est quand même la compétition internationale majeure cette saison.
Donc, ça devrait être Carvajal, qui ne l'aura pas.
Alors, ça pourrait être Dani Carvajal, effectivement, qui lui a gagné les deux, mais c'est très rare que celui qui gagne les deux soit au palmarès. Par le passé, Varane s'est retrouvé dans cette situation en 2018. Il n'y était pas. Auparavant, Ronald Koeman en 1988. Enfin, il y en a eu plusieurs qui se sont retrouvés vainqueurs de la Ligue des Champions et d'une grande compétition internationale, mais qui n'ont pas eu le Ballon d'Or quand même, souvent parce que c'était des défenseurs.
Allez, parmi les absents de la course au Ballon d'Or, Messi, Ronaldo cette année, mais également un certain Kevin De Bruyne.
Je pense que le problème, ça va venir quand on a fini la Coupe du Monde avec des clubs. Parce qu'on sait qu'il y a juste 3 semaines entre la finale du Coupe du Monde et le premier match de Premier League. D'abord, tu as 3 semaines pour avoir une vacance, une préparation pour jouer encore 80 matchs la saison après. C'est l'année prochaine qui va être un problème. Ils ont essayé de trouver des solutions, mais l'UEFA, le FIFA, ils font des matchs en plus et on peut essayer de dire quelque chose, mais ils s'en foutent. C'est l'argent qui parle.
Un joueur un peu à l'ancienne, en tout cas qui n'a pas peur de prendre la parole, Kevin De Bruyne, pour dénoncer quelques dérives du football business. Première trêve internationale, il doit jouer la Ligue des Nations avec la Belgique. Kevin De Bruyne, joueur de Manchester City, quelques semaines après avoir joué l'Euro, juste avant de débuter une nouvelle Ligue des Champions avec plus de matchs. Et puis, il y aura cette première Ligue en Angleterre à poursuivre, la Coupe d'Angleterre. Et puis, à la fin de la saison, il y aura aussi un Mondial des clubs XXL pour son club. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et tout ça pour l'argent, vous êtes d'accord avec Kevin De Bruyne?
Bien sûr, il a raison, Kevin De Bruyne, quand il dénonce ses cadences infernales. Bon, après, je pense que les entraîneurs ont aussi un rôle à jouer dans le turnover pour faire justement reposer les joueurs, puisqu'ils ont des effectifs en plus de plus en plus importants. Donc, mais c'est vrai que les très grands joueurs sont sollicités. Et surtout, maintenant, ce que l'on voit, c'est que dans les contrats même de matchs amicaux et notamment de tournées, par exemple en Asie ou aux États-Unis, comme le font souvent les grands clubs européens, on leur impose la présence de Messi, de Bruyne, de Cristiano Ronaldo quand il était en Europe, etc. Parce que les spectateurs américains, japonais, coréens ou de Singapour, ils payent pour voir les stars, effectivement. Donc, le football business est effectivement prisonnier de l'engrenage dans lequel il est rentré. Et Kevin De Bruyne, quelque part, a raison. Maintenant, c'est vrai qu'il est, j'allais dire, mal placé, parce qu'en plus, il joue en Angleterre, où il y a une compétition de plus, la Coupe de la Ligue. Même si Manchester City a tendance ces dernières années à la laisser filer, avec un objectif précis qui est de gagner à nouveau la Ligue des Champions, vous l'avez dit, avec cette année deux matchs en plus à minima, parce que s'il y a en plus les tours de barrage, ça fait quatre. Donc voilà, on comprend que Kevin De Bruyne, qui est plus que trentenaire maintenant, dans une équipe où il y a effectivement de grandes ambitions, soit un peu là de tous ces enchaînements de matchs.
Ouais. C'est pas le seul ni le premier à critiquer l'avalanche, le nombre de matchs trop élevé. Rémy Ngono peut-être pointer une contradiction. Il joue en Angleterre, il a un salaire confortable, Kevin De Bruyne. Si les joueurs veulent moins jouer, il faut aussi qu'ils acceptent de gagner moins d'argent, peut-être.
Oui, et surtout, il est à Manchester City. Un club business. Donc, franchement, c'est
un club transfiguré il y a une quinzaine d'années par les pétrodollars.
On vous dit, voilà un club qui dépense des milliards, qui recrute, qui ils ont un effectif pléthorique jusqu'à ce qu'ils prêtent même des joueurs. Et puis ici, Kevin De Bruyne, qui parfois se blesse, souvent étant aussi au lit, comme le faisait Dembélé, qu'on appelait Demblessé. Généralement, il ne joue même pas beaucoup, Kevin De Bruyne. Donc aujourd'hui, moi je crois que lorsque vous regardez la cadence, peut-être d'un joueur comme Valverde qui court un peu partout, et que ce soit avec son équipe ou avec le Real Madrid, je crois que c'est un problème athlétique, c'est un problème de préparation foncière également. Donc aujourd'hui, moi je crois que tout le monde sait que le football est business. Ils veulent des grands salaires, les recrutements et surtout les transferts, c'est ceci et cela. Lorsque vous entrez dans cet engrenage-là, vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « la cruche va ». Là où va la corde.
Mais là où, ce à quoi il fait allusion, là, Kevin De Bruyne, c'est le printemps, l'été prochain, hein, avec ce mondial des clubs, du 15 juin au 13 juillet. C'est une année où il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro, donc c'est la seule où ils peuvent, entre guillemets, avoir de vraies vacances. Et là, on leur a mis cette nouvelle compétition qui va se disputer aux États-Unis. Il est à City, on peut penser que City va aller très loin, donc ça va durer quasiment un mois pour lui. Ouais, les cadences infernales, ça ne s'arrête jamais.
Compétition créée par la FIFA, qui est un peu en rivalité avec l'UEFA, qui a augmenté sa formule de la Ligue des Champions. En plus, ils sont un petit peu pris dans une concurrence et une course aux armements des instances.
Exactement, c'est une guerre d'influence entre les deux plus grandes organisations sportives du monde, si on met le CIO à part. Ouais. Et la FIFA, qui a plutôt le marché des équipes nationales avec une Coupe du Monde qui lui fait gagner beaucoup d'argent, vient sur les plates-bandes de l'UEFA qui, elle, a d'abord comme source de revenus la Ligue des Champions. Un peu l'Euro aussi, mais d'abord la Ligue des Champions. Donc du coup, l'UEFA a fait cette nouvelle formule que vous évoquez, Hugo, pour effectivement offrir plus de matchs encore et plus de revenus avec les nouveaux contrats marketing et les nouveaux contrats télé qu'ils ont signés pour la saison à venir et pour les cinq années à venir. Et la FIFA, elle essaye d'installer ce mondial des clubs. C'est pas la première fois qu'ils essayent. Moi, j'ai dit que j'étais toujours sceptique sur la capacité d'installer ce rendez-vous. Ils l'ont déjà fait en 2000 à l'époque. Il y avait eu qu'une seule édition. Ils ont réessayé ensuite. Ça a jamais marché. Donc là, comme il y a la Coupe du Monde aux États-Unis et qu'il y a des fonds américains qui sont intéressés par le business du soccer, donc ils ont trouvé un terrain favorable. Mais est-ce que ça va s'installer dans la durée? Je reste très sceptique.
Un petit message de Candé Oumar Touré. J'aime votre manière d'analyser, franchement, Xavier.
C'est sympa.
Ben oui, c'est sympa. J'essaie de dire la vérité. Parfois, ça peut être gênant, oui.
En parlant de vérité gênante, on va parler du Cameroun. Le football camerounais, une immense entreprise, un des plus grands pays d'Afrique et l'un des plus grands pays de foot en Afrique surtout, une immense entreprise qui connaît souvent la crise, celle qui a débuté avec la nomination de Marc Brice, le Belge au poste de sélectionneur au printemps dernier. Elle est pas mal dans le genre, Rémine Gono, et elle a continué, elle s'est poursuivie cette semaine, Frédéric Suto, en préparation, en amont du match, du premier match, des premiers matchs des Lions Indomptables dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, face à la Namibie demain à Garoua, puis après il y aura un déplacement en Ouganda pour affronter le Zimbabwe.
Oui, ça fait 6 mois que ça dure, hein, vous l'avez dit, on a l'impression que tous les moyens sont bons. En fait, il faut trouver un prétexte entre d'un côté la FECA Foot, incarnée et présidée par Samuel Eto'o, et de l'autre le ministère. Donc là, ce qui a fait débat, là où ça coinçait, c'était le stade. La FECA Foot a dit, on va jouer à Japoma, on va jouer à Douala. Et puis très vite, le ministère, l'organisme qui gère les infrastructures, hein, l'ONIES, là, nous a dit « Japoma, saison des pluies, tout ça, le stade, c'est pas possible. On va jouer à Yaoundé. »
Sauf que c'est maintenant qu'il pleut à Yaoundé, il ne pleut
là,
pas
Douala. Et là, pendant 10 jours, c'était le bras de fer. « Non, ce sera Douala, non, ce sera... Hein, bon, voilà, on va pas jouer si ça continue comme ça. » Là, la FECA Foot change son fusil d'épaule. Dans ce cas-là, on va aller à Garoua, dans le Nord. Peut-être que là, c'est plus facile. Et puis ça a continué. Il y a eu une grande réunion au ministère, là, il y a 2 jours, et on a réussi à embarquer tout le monde, aller dans l'avion. À un moment, Samuel Eto'o, il menaçait de faire jouer les U20.
Hein, qu'il posait un ultimatum pratiquement aux joueurs. Vous êtes avec moi ou avec le ministère,
quoi. J'ai l'impression qu'il a perdu quelques soutiens quand même de la part des joueurs ces derniers jours. Mais là, ils sont tous à Garoua, ils sont montés dans l'avion. Alors, il y a encore des histoires d'hôtels, les joueurs, la feuille de match, il nous faut les passeports, ça continue jusqu'au bout, mais... Je pense que le match va avoir lieu.
Rémine Gono, au début de la crise, ça n'avait pas empêché le Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde de bien figurer. Succès probant face au Cap-Vert, nul en Angola, et l'Angola, c'est pas si mal. Ils ont battu le Ghana hier. Parce que là, ça va être rebelote. Malgré la crise, les Lions Indomptables vont être au rendez-vous pour le début des éliminatoires de la CAN.
Les Lions Indomptables ont souvent dormi sur les aéroports. Ils ont souvent fait des grèves de joueurs et puis gagné des matchs. Et c'est ça le dommage avec Marc Brice, parce que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Ce n'est pas lui qui vient inventer la brouette au Cameroun dans un pays où on a déjà 5 cannes. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas, parce que le football camerounais, c'est aussi une image, c'est aussi une entreprise. Et surtout, c'est aussi un problème de l'Afrique, parce que lorsqu'on voit justement ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Vous savez, justement, ça risque de créer des problèmes. D'abord aux joueurs et même à toute l'Afrique. Pourquoi ? Parce que quand les clubs libèrent les joueurs. C'est des fédérations africaines qui demandent ces joueurs-là. Et il y a un trajet, donc, avec un lieu de stage qui est déterminé parce que les assurances entrent en jeu. Or, comment un sélectionneur peut venir et vous dit « Moi, je ne regarde pas ceci, je ne regarde pas cela, je choisis ceci, je
choisis
cela. »
On va pas faire l'inventaire des reproches
vient,
que vous pouvez faire
par exemple,
à Marc Brice,
là, on
le temps, temps défile.
Et là, par exemple, vous vous rendez compte, la feuille de match doit être remplie. Quand vous me demandez « Est-ce que le Cameroun va gagner ?» La feuille de match doit être remplie par la fédération. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est un huissier de justice qui vient de sommer le sélectionneur de remettre les passeports. C'est vrai qu'il est un flic, mais à force de vouloir maintenant venir jouer le flic, au Cameroun, ça ne marche pas. C'est vrai qu'au Cameroun, on ne respecte pas les lois. Et Marc Brice s'y est engouffé parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que dans un pays des aveugles, ferme les yeux.
Les cartons du Café des Sports.
Carton jaune,
un carton, là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et nos auditeurs nous parlent justement des éliminateurs de la CAN qui viennent de débuter. Ils ont du talent, ils ont des avis, ils ont des cartons.
Bonjour le Café des Sports, moi c'est Boubacar Diallo depuis qu'on a dit. Je donne aujourd'hui un carton vert d'encouragement au Sélection nationale de Guinée pour les éliminatoires de la CAN. Et notamment à Sémi Djirassi, qui n'a pas été retenu pour le Ballon d'Or, alors qu'il sort d'une saison exceptionnelle avec Stuttgart. C'est vraiment incompréhensible. Bon Café des Sports et bon week-end. Ciao.
Salut, salut. Je suis Olivier Kouassi de la Côte d'Ivoire. Je donne un carton vert à ces deux grandes légendes du football. Il s'agit de CR7 Cristiano Ronaldo et de Léo Messi, qui, pour la première fois depuis 2003, ne sont pas nominés au Ballon d'Or. Mais par leur performance, ils continuent de montrer de belles choses. force à eux et que Dieu les protège.
C'est Zikaneri depuis le Sénégal. Mon carton vert, c'est pour la Centrafrique qui a fait énorme effort en gagnant le Lesotho 3-1. Allez les fauves cette fois-ci. On va s'en sortir du mieux quoi, avec l'équipe là. Allez les fauves.
Bonjour Radio Foot International, bonjour à toute l'équipe, moi c'est Jésus Appé de Londres, et puis mon 14e, c'est carton rouge au dirigeant de la Fédération Ghanéenne de Football pour l'état déplorable de la pelouse de stade de Baba Yara Stadium à Kumasi, où a été disputé le match entre le Ghana et puis l'Angola, où le Ghana a perdu 1-0. Déplorable, et j'espère que les autorités vont prendre conscience de ça. Et aussi en Afrique, pour que les autorités africaines prennent conscience de leur stade, la maintenance. Merci et puis bonne émission.
Voilà les cartons de nos auditeurs. Le Café des Sports se referme. À très bientôt sur France 24 et sur le Facebook Live.